l'islam radical se développe principalement dans les sociétés sécularisées qui ne gèrent pas le religieux, où il n'y a pas de régulation sur ce que dit le religieux. Et c'est donc la sphère européenne. Particulièrement en France, on a du mal à parler du religieux, mais je pense que toute l'Europe est visée.
Le fait de ne pas pouvoir exprimer sa foi conduirait certains jeunes à l'isolement et à une rébellion contre la société telle qu'elle est établie actuellement ?
Le tabou qui consiste à ne pas nommer les choses liées au religieux, la stricte séparation entre l'État et les églises amène un paradoxe qui fait que par Internet, des religieux peuvent dire n'importe quoi sans que personne ne les contrôle. C'est-à-dire que l'extrême séparation entre l'État et les églises permet paradoxalement à des discours religieux radicaux une nouvelle autonomie et une nouvelle expansion, notamment avec Internet, que personne ne régule. Et le tabou sur le religieux en France nous a ralentis aussi dans la démarche de pouvoir mettre le curseur entre ce qui relève de la religion musulmane et ce qui relève ou ce qui révèle un endoctrinement radical qui utilise la religion pour la haine et la violence des autres. On a eu peur de faire la différence, de poser des indicateurs dans l'Europe tout entière, principalement en France. Face à un comportement qui met de la rupture, les pays musulmans traditionnels réagissent de façon moins laxiste qu'en Europe. Je vous donne un exemple. Le roi du Maroc vient de limoger un officier parce qu'il refusait de tendre la main à une femme qui était la première wali, donc la première responsable femme religieuse. Il a été limogé. En France, quand un homme refuse au nom de l'islam de toucher la main d'une femme, il n'a rien. Personne ne lui dit rien. C'est un exemple concret. Il y a en France un grand amalgame entre les musulmans pratiquants et les radicaux qui mène à des fois suspecter tout musulman pratiquant d'être un intégriste, mais qui paradoxalement mène au laxisme envers les radicaux que le gouvernement peut, sans le vouloir, valider comme des simples croyants un peu orthodoxes.
Je crois que dans votre ouvrage, vous mettez le doigt sur l'importance qu'il y ait des indicateurs d'alerte au sein des populations musulmanes. Est-ce que les imams peuvent jouer ce rôle ? Est-ce qu'il y a des personnalités qui peuvent être considérées comme suffisamment légitimes par tout le monde pour dire « attention, ce jeune est en train de prendre un mauvais chemin » ?
Lorsque je parle de dérive sectaire, c'est parce que toutes mes études m'ont conduite à l'observation que les jeunes qui étaient enrôlés dans l'islam radical n'avaient aucune démarche théologique ou spirituelle. C'est-à-dire que les premières années où on envoyait un imam, le jeune est capable de dire à l'imam « mais toi, tais-toi, tu ne sais pas ce que Dieu dit, moi je sais », alors que 2 mois avant, il était soit toxicomane, soit délinquant, soit autre chose et qu'il ne connaît pas la religion musulmane. Donc l'intervention des imams pour désamorcer l'islam radical ne peut arriver qu'en prévention. Je pense que c'est à toute la société française de savoir ne pas laisser ces mouvements radicaux s'engouffrer dans le droit à la liberté de conscience et d'appliquer les mêmes critères qu'ils appliqueraient aux catholiques, par exemple. Car quand je parle de laxisme, c'est parce que cette espèce de droit à la différence qu'on prête à l'islam, finalement, mène à confondre les radicaux et les musulmans et porte tort à la fois aux musulmans, à la fois à la France et laisse finalement l'autorité à ces radicaux qui sont en train de redéfinir l'islam avec une grande violence et grande rupture avec tout ce qui n'est pas exactement comme eux.
Concernant les jeunes déjà radicalisés, notamment ceux qui sont partis faire le djihad, notamment en Syrie actuellement, est-ce qu'on peut déradicaliser un jeune qui a déjà fait le djihad, qui a donné son temps pour cette cause qu'il croyait juste ?
Les parents qui m'appellent quand les enfants ne sont pas encore partis, mais les parents, qu'ils soient au départ des catholiques, des protestants, des juifs, des agnostiques ou des athées ou des musulmans, je précise que cela touche n'importe quelle famille, voient que leur enfant n'est pas converti ou n'est pas plus musulman qu'eux, mais voient bien que le discours a fait miroiter aux jeunes l'idée que son petit malaise était en fait le signe d'être élu par Dieu pour appartenir à un groupe supérieur qui détient la vérité et qui a comme mission finalement de régénérer le monde, de sauver le monde du déclin qui est régi par le mal. Et quand ses parents m'appellent, immédiatement on essaye de mettre en place un désendoctrinement, c'est-à-dire de faire revivre la personne, le jeune, en tant qu'individu, puisque le discours de l'islam radical qui passe 98% par Internet essaye de détruire l'histoire du jeune, lui demande d'effacer les photos de souvenirs avec sa famille, comme si ça allait le détourner de Dieu, lui enlève ses contours identitaires, remplace évidemment la réflexion par le mimétisme. Les jeunes sont dans une sorte d'état d'hypnose. Ils récitent les versets du Coran comme des recettes de cuisine. Quand ils en connaissent deux ou trois, il s'agit de remobiliser quelque chose de l'individu et de le faire sortir de cette vision du monde endoctrinante où il y aurait le vrai d'un côté, le faux de l'autre, et qui obligerait effectivement à faire ce que le groupe lui dit pour retrouver sa raison, son histoire, sa famille.
Oui, là, vous montrez bien qu'il s'agit d'une dérive sectaire qui peut toucher tous les milieux. Est-ce que les autres religions, les responsables juifs, catholiques, protestants, peuvent aussi jouer un rôle dans ce travail de prévention ?
Oui, je pense que les autres responsables religieux peuvent beaucoup aider en essayant justement d'abord de partager comment dans leur propre religion ils ont aidé les croyants à faire la part des choses entre ce qui relève de la dérive sectaire, c'est-à-dire qui mène le jeune à la rupture familiale et scolaire principalement et sociétale, et la croyance qui permet de se ressourcer dans sa relation à Dieu pour aller vers les autres et pour faire le bien sur la terre. Je crois que les religions en ont toutes bavé pour faire ce discernement. C'est un vrai travail, je pense qu'il y a un partage, parce que les croyants musulmans ont le sentiment que ça va amplifier l'amalgame que de nommer les choses. Je fais le pari contraire. Je pense qu'il faut nommer les choses pour bien montrer que l'islam doit être une religion de paix et peut pas être instrumentalisé ni pour exploser les autres, ni pour se faire exploser soi-même. Et là, nous avons besoin du retour d'expérience des autres croyants. Oh que oui!